Il est possible que les messages de ce matin et cet après-midi nous interpellent un petit peu quant au sujet. Voilà, ce matin, on pourrait le résumer ainsi. Dieu voudrait partager avec nous son fardeau. Et nous ne sommes pas de ceux qui venons simplement comme des bénéficiaires lui dire merci de toute l'œuvre qu'il a réalisée. Ce que j'ai sur le cœur depuis un certain temps, et particulièrement hier, j'en ai pris conscience un petit peu plus fortement, c'est Dieu cherche à partager son fardeau avec ses enfants. Et on voit que finalement ça remonte très tôt dans la Genèse. Alors on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, pour attester du fait que Dieu veut tout partager avec nous. Tout. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est que la lecture d'introduction pour montrer que l'idée, la volonté de partage pour Dieu s'inscrit déjà dans la dimension de l'éternité. Il partage l'éternité avec nous, il partage le ciel avec nous, j'oserais même dire il partage la maison avec nous. Je vais vous préparer une place. Et depuis l'origine, finalement, Dieu a tout établi sur ce fait de partager. Quand il a créé l'homme et la femme, on est dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et verset 7, il l'a formé de la poussière de la terre, là, il n'y a pas de partage, mais il a soufflé en lui un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et ce souffle de vie vient d'en haut. Et cet esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Autrement dit, la source de notre existence temporelle et éternelle est sur le partage. Il nous a donné de la vie qui est en lui, de la vie qui vient de lui. Parce qu'il n'y a pas de vie éternelle autrement ou ailleurs qu'en lui. Et il nous l'a déjà donné. Dans l'idée de partage, il est allé même beaucoup plus loin en créant l'homme et la femme à son image. Et nous partageons avec Dieu, ou plutôt, Dieu partage avec nous des points communs. Un amour qui correspond au sien, celui du Père, par exemple, ou du Fils prodigue. Il partage avec nous des paroles, et il veut qu'elles soient en adéquation, des pensées, des sentiments que nous n'avions plus, parce qu'on ne les partageait plus, on ne les avait peut-être même jamais connus. Mais dès que nous donnons notre cœur au Seigneur et que la conversion a lieu par l'action de l'Esprit et de la parole, il y a de nouveau entre Dieu et nous une communion. Qui dit communion, dit partage. Quand vous mangez avec quelqu'un, vous partagez le repas. Vous partagez la discussion, vous partagez les rires, vous partagez les peines, vous partagez tout. Et Dieu veut partager avec nous beaucoup de choses. Dans le livre des Psaumes 115 et verset 16, il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et il y a là un don aux hommes. Et nous devons partager la terre. » Nous, on l'a trop partagée. On a même fait du bornage. Au niveau du microcosme, notre petite parcelle de terrain est bornée par rapport aux voisins, au niveau du pays. Et quand il s'agit de déplacer une frontière, c'est toute une histoire, si ce n'est un conflit. Mais les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il les a réservés pour les partager avec nous. Il est en train de nous préparer une place. Et un jour, il reviendra nous chercher. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous serons dans l'éternité avec Dieu. Il nous prépare une place. Il a limité pendant notre temps ici-bas, notre durée de vie à cause du péché. Les jours de l'homme seront de 120 ans. J'étais étonné, je crois que c'était hier, aux informations d'entendre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, des médecins de grands hôpitaux français dire finalement l'espérance de vie de la population n'ira pas beaucoup au-delà de l'espérance de vie actuelle. Tout simplement, il l'expliquait, parce qu'il y a une programmation dans les cellules, elles sont programmées pour mourir. Et donc on ne peut pas indéfiniment repousser le renouvellement des cellules, sauf à passer par des méthodes chimiques. Et je me suis dit, mais c'est vrai, on est en train de découvrir scientifiquement parlant une limite que Dieu a posée, qui est de l'ordre de 120 ans, et aujourd'hui les plus vieux sur la Terre, ils tournent autour de ces 120 ans. Après, la question se pose, dans quel état on arrive à 120 ans? Tant mieux si c'est en bon état, mais si c'est pour être juste là avec les yeux qui s'ouvrent et pas capable de s'exprimer ou de se déplacer, c'est beaucoup plus compliqué. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce qu'il y a une dégradation à cause du péché. Mais pendant notre séjour de 120 ans ici-bas, que partageons-nous avec Dieu? Ou plutôt, qu'est-ce que Dieu peut partager avec nous? C'est toute la question. C'est pour cela que le psalmiste dira, enseigne-nous à bien compter nos jours de ces 120 années. Parce que quand on y regarde bien, pendant 120 ans, il y a un temps au début et peut-être aussi à la fin où on n'est pas très, très, très capable de partager quoi que ce soit parce qu'on est trop petit ou parce qu'ensuite on est trop diminué. Donc finalement, pendant les 120 années, les parenthèses se resserrent et il y a une période pendant laquelle Dieu peut partager avec nous et veut partager avec nous. Et le Seigneur nous en a fait la démonstration parfaite. Il n'a rien commencé avant de prendre des disciples. Il a tout partagé avec eux. C'était tellement partagé qu'ils n'étaient pas capables d'être en communion avec lui. Bien souvent, ils étaient en décalage. Ça, c'est vu du côté des disciples. Mais vu du côté du Seigneur, il a tout partagé avec eux. Il leur a donné la même parole, les mêmes indications, les mêmes choses à faire. Et quand il les entendait parler, quel est le plus grand parmi nous, peut-être que de temps en temps, ça devait l'affecter au plus profond de lui-même, mais il a continué de partager. Quand il a partagé le pain et le vin, c'est pareil, il y avait quand même Judas qui était dans les rangs, dont le Seigneur savait pertinemment ce qu'il y avait au fond de son cœur, mais il a quand même tout partagé avec tout le monde. Le père des deux fils, dont l'un est le prodigue, va leur partager leur bien. Dieu partage depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Dieu partage tout. Et qu'est-ce qui apparaît de la part des deux? C'est que l'un a pris seulement pour lui, et l'autre n'a rien touché. Et là, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Ne soyons pas de ceux qui prennent de ce que Dieu veut partager uniquement pour nous, même si nous l'avons fait pendant un temps. On avait besoin de la grâce de Dieu. On avait besoin des réponses à nos prières. On avait besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ça. Il y a un monde qui a besoin du salut. Il y a un monde qui a besoin de la délivrance. Et le Seigneur ne nous demande pas d'attendre que tout aille bien chez nous pour penser aux autres et apporter aux autres ce que nous avons reçu de lui, autrement dit partager avec les autres ce que nous avons reçu de lui, parce que sans quoi on ne le fera que très rarement, si ce n'est jamais pour certains, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais eu de vie facile. Et pourtant, ils servent le Seigneur en même temps. Et l'autre n'a rien touché. Et pourtant, tout était là. À un moment donné, dans le ciel, le Seigneur dira à certains, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Ne soyons pas de ceux qui ne touchent rien. Non, c'est aux autres de le faire, pour différentes raisons. Hein. Parce que peut-être je me sens incapable de servir le Seigneur dans mon cercle proche. Je ne suis pas à l'aise pour parler. J'attends moi-même des réponses à mes prières, alors je suis embarrassé pour encourager les autres à prier pour les situations qui les touchent. Quand moi, j'ai tous les jours devant mes yeux la situation qui est la mienne pour laquelle je n'ai pas la réponse que je souhaiterais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des raisons majeures, humainement valables, de ne pas toucher et de ne pas partager avec les autres ce que nous avons reçu du Seigneur, puisque lui, il a partagé ses biens. Mais nos raisons majeures, valables, ne sont peut-être pas suffisantes. Il y a quand même une demande, une attente de la part du Seigneur à notre égard, ses enfants, pour partager les grâces que le Seigneur nous a déjà données. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir peut-être apporter plus que ce que l'on a reçu, mais ce que nous avons reçu, apportons-le. Partageons-le à un monde qui se perd et qui ne connaît peut-être pas la moindre première grâce de Dieu. Nous voyons celle que nous attendons encore, mais nous en avons déjà reçu. Mais certains n'ont même pas reçu la première, comme nous. Apportons-leur cette grâce de Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec ce que tu as reçu, distribue-le. Ce pain que tu as demandé, donne-nous notre pain quotidien. Qu'il soit physique ou qu'il soit dans d'autres domaines de ma vie, c'est-à-dire les réponses de Dieu au niveau professionnel ou autre, partage avec celui qui a faim. Et de toute façon, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Du coup, Le Seigneur pourrait nous dire, d'accord, tu as reçu moins que l'autre, mais c'est au prorata. On demandera beaucoup à qui l'on aura beaucoup donné. Ça ne veut pas dire qu'on ne demandera rien à celui qui n'a pas beaucoup reçu. Ce que tu as reçu, partage-le. Soyons un petit peu comme Pierre. Ce que j'ai, je te le donne. En l'occurrence, il avait beaucoup reçu et cet homme s'est levé. Peut-être que je n'ai pas reçu autant, ou que je pense que je n'ai pas reçu autant. Mais je risque d'être surpris de voir des situations changer pour le peu que je vais partager. Parce que ce que j'ai reçu de Dieu est tellement grandiose que même un peu fait beaucoup d'effet. Est capable de transformer les vies, de susciter la foi et d'amener les hommes et les femmes à se tourner vers le Seigneur. Et je serai le premier surpris de voir que je me sentais vraiment incapable et vraiment. À mon appréciation, j'ai dit peu, j'ai partagé peu. Seulement, c'est un concentré de bénédiction. C'est la parole de Dieu, puissante et efficace. Que la lumière soit, c'est pas grand-chose, ce sont que quelques mots. Mais la lumière fut. Alors, parlez de l'amour du Seigneur à quelqu'un, celui que vous avez déjà reçu, parce que celui-là, on l'a tous reçu. Peut-être des réponses qu'on entend encore à nos prières, mais l'amour du Seigneur, nous l'avons tous reçu. Le Seigneur dira dans Ésaïe 59, il voit qu'il n'y a personne. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est Ésaïe 59, verset 16. Et là, c'est de notre responsabilité d'intercéder pour ceux qui nous entourent. Et avant de... Il faut peut-être commencer par notre cercle le plus proche. Ne commettons pas une erreur, c'est de commencer par les antipodes, les extrémités de la terre, pour ensuite revenir vers nous. Non. Le Seigneur, je pense, nous demande d'agir tout autrement. Commençons par Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on ira, on avancera dans ce sens-là. Mais Ésaïe 59, verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ça veut dire que nous ne partageons pas notre intercession avec Dieu. Dans nos sujets d'intercession, y a-t-il ceux de Dieu? Parfois, il y a ceux des autres. Les nôtres, puis ceux des autres. Et jamais le Seigneur ne nous a fait un quelconque reproche sur le fait de partager en sujet d'intercession, les nôtres et ceux des autres. Mais il attend les siens. À quand remonte la dernière fois, vous et moi, à titre personnel, nous avons prié sur les sujets que le Seigneur nous a déjà donnés? Levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent. Et priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. À quand remonte le fait que vous et moi avons prié pour ce sujet-là, qui n'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu? Nous gardons notre temps. Il nous en a donné 120 ans d'espérance de vie. D'accord, il y a une partie au début et à la fin qui est peut-être moins facilement gérable, mais il y a quand même au milieu une bonne partie de notre temps où nous l'utilisons pour beaucoup de choses. Est-ce que nous partageons du temps avec Dieu en dehors du fait du temps dont nous avons besoin? Je prends du temps par rapport à mes besoins. Mais maintenant, le Seigneur nous attend pour ses propres besoins, pour ses propres projets. À quand remonte le moment où, personnellement, individuellement, nous avons jeûné, non pas pour nous, mais pour lui? À la limite, ce serait peut-être même, non pas un exercice à faire, mais quelque chose tout simplement à faire. Jeûnons, pas du tout pour nous, rien de nous, tout de ce qu'il demande et de ce qu'il attend. Et là, nous serons, je suis sûr, les premiers surpris de voir que quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus », nous verrons que quand nous nous sommes occupés que de ses affaires, il va s'occuper que des nôtres. Et il va mieux s'en occuper, puisque finalement nous n'aurons pas interféré en demandant une chose plutôt qu'une autre. Nous aurons dit « Parce que le temps a passé, il ne me reste plus de temps pour moi ». Pour mes sujets, et puis c'est-à-dire pour ce qui me concerne, tu sais tout. Que ta volonté soit faite. Alors là, c'est la plus belle des prières pour ce qui vous concerne. Vous donnez 100% la main à Dieu. Totalement, vous lui donnez l'autorisation d'agir dans vos vies selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Nous gardons nos moyens. Nous avons une faculté de parole et d'expression que nous utilisons dans bien des domaines. Je vous renvoie vers les dernières statistiques concernant la téléphonie mobile, SMS et autres. On téléphone plus qu'avant, comme si on avait beaucoup plus de choses à dire qu'avant. Les SMS, n'en parlons pas. Nous gardons nos moyens de parole, nous gardons nos moyens d'action. Et que partageons-nous en parole pour l'œuvre de Dieu et en action pour l'œuvre de Dieu? Lui, on en parlera cet après-midi, il a tout donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a tout donné. Il ne reviendra pas en arrière. Il partage tout. Une place au ciel. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Avec qui? Extérieur à votre famille au départ. Aujourd'hui, vous envisageriez de partager l'héritage. Oh, mais je vais réfléchir, choisir la personne. Et quand vous avez affaire à des gens qui sont qualifiés ainsi, pas un juste, pas même un seul. Hein? Avec qui allez-vous partager ce qui vous a coûté le plus, tout le travail de votre vie? Ce n'est pas une réflexion en l'air, c'est concret. Il l'a fait. Essayons d'imaginer à notre niveau ce qui nous pourrions prendre extérieur à notre famille. Et qui ne le mérite pas, avec lequel nous avons même un passif, parce que tant que le péché n'est pas pardonné, entre Dieu et nous, c'est la séparation. Donc on va être dans le même cas de figure que le Seigneur lui-même, envers l'humanité. Et néanmoins, il veut partager avec ces gens-là que nous étions. Faire de nous des héritiers de la grâce de Dieu, co-héritiers avec Christ, à tel point que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas le trône de Dieu avec le Père et le Fils, et quelque part plus loin, au bout de la pièce, au fond, parce que c'est cette place que, en général, nous regardons, nous. J'oserais dire que dans le ciel, les premiers rangs sont remplis. Et je ne sais pas s'il y a de deuxième rang, puisque nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Alors je ne sais pas quel est le positionnement, néanmoins il n'y a pas de subalterne. Puisqu'il a donné son Fils pour nous, il nous aime au même niveau, il a accepté de payer le sacrifice, il partage le ciel pour l'éternité. Je ne sais pas avec qui nous partagerions notre maison éternellement parlant. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais après, il faut vraiment être en communion pour arriver à partager la même maison avec des hommes et des femmes qui, au départ, n'ont rien à voir avec vous. Alors, on va regarder un instant la demande que le Seigneur a faite à Abraham sous un autre regard. Quand il lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes », on peut le regarder de différentes manières. Je voudrais simplement le regarder ce matin comme une demande de la part de Dieu à celui qui est le Père des croyants, d'un partage du prix à payer pour le salut de l'humanité. Je voudrais que tu partages avec moi, Abraham. Tu es le Père des croyants, donc après toi, tous les autres toucheront du doigt ce que je t'ai demandé, et qui nous fait dire à tous, on ne l'aurait certainement pas fait, mais qui partageront avec toi le prix que cela peut demander que d'accepter de donner son Fils en sacrifice. Partage avec moi la peine. Partage avec moi le prix à payer. Partage avec moi la douleur, parce qu'à partir du moment où l'homme et la femme ont péché, du côté de Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, un compte à rebours s'est enclenché, qui indéniablement a mené la croix. Alors pour le peuple juif, c'est l'annonce du Messie, ça c'est heureux. Mais un Messie pour venir faire quoi? Chercher, sauver ce qui était perdu au prix du sacrifice à la croix. Victime expiatoire. Le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui parce que les péchés qui avaient été commis auparavant au temps de sa patience n'avaient pas été condamnés. Ils le sont là. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et à la fin de cette discussion avec Abraham, Dieu va lui dire, je sais maintenant que tu crains Dieu. Il va lui dire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi à ma voix. Alors tu seras béni, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Mais Pour moi, ce n'était pas qu'une exigence sacrificielle, puisqu'il n'y a pas eu sacrifice. C'était une demande de partage de douleur. Et Dieu en a parlé au Père des croyants, parce que ça lui pesait dès le départ, dès l'origine. Il ne pouvait pas le partager avant, parce qu'avant, l'œuvre du salut ne pouvait pas être enclenchée comme elle va l'être, et le compte à rebours ne va pas pouvoir se mettre en place comme il est mis là. Mais comme pour nous, de temps en temps, nous voyons des comptes à rebours s'enclencher, et on sait que, de toute façon, le jour J va arriver. Et ce n'est peut-être pas le jour de la délivrance, c'est le jour du prix à payer. Alors, c'est un poids, et le Seigneur l'a demandé à Abraham, partage-le avec moi. Et ensuite, il va le demander à tous les croyants, au niveau du sacrifice de l'agneau de la Pâque. Partagez avec moi, et de génération en génération, et d'année en année, partagez avec moi cette peine, partagez avec moi ce prix. C'est une demande de partage de souffrance que l'on retrouvera dans la nuit de Gethsémané. N'avez-vous pu veiller une heure avec moi? Est-ce que le Seigneur a besoin de vous et de moi? Je pose la question, je ne me permettrai pas de répondre, vu ce qu'il a dit, mais nous serions tentés de dire, mais non, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Il est le Tout-Puissant, il est Dieu avec nous, qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Et ça, c'est notre raisonnement. Lui, il s'est adressé aux disciples au moment le plus difficile du compte à rebours qui arrive à son terme, veillez avec moi. Le Père avait dit, donne-moi ton Fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi ces précisions? Parce que c'était celle qui coûtait cher dans le cœur du Père. Et maintenant, on arrive au moment, à quelques heures du prix à payer, veillez avec moi. Ils s'endorment tous. Partagez avec moi la douleur. Alors avant de prendre le pain et le vin, je voudrais qu'on puisse lire ce que Paul va dire aux Corinthiens, un petit peu sur cet angle-là. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 17. On ne va pas retenir le cas particulier des Corinthiens où certains étaient ivres, parce que Paul va leur dire « Vous vous rassemblez pour devenir pire ». Et je n'ai jamais vu quelqu'un de ivre au moment de la Sainte-Seine, je ne souhaite pas le voir. Mais on va retenir autre chose. Rassemblez-vous pour devenir meilleur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On va laisser de côté le deuxième aspect qui ne nous concerne pas. Mais ce que le Seigneur souhaiterait, c'est que nous devenions meilleurs. Ce qui veut dire qu'il attend de nous qu'en prenant ce qu'il nous donne et en le partageant en mémoire de lui, nous soyons meilleurs. Nous pourrions être en dessous de ce qu'il attend en prenant le pain et le vin que pour nous et en lui disant merci pour le salut de mon âme et le pardon de mes péchés. Mais vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, on ne se l'annonce pas à soi-même. Sauf erreur, on l'annonce au monde, on l'annonce aux autres. C'est pour cela que dans toutes les églises où personnellement je suis passé, j'ai dit on ne couvre pas le pain et le vin. C'est un témoignage. Le Seigneur n'a pas demandé de le couvrir, il a demandé au contraire de le partager avec tous ceux qui étaient présents à ce moment-là et qui avaient déjà donné leur cœur au Seigneur. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on laisse le cas de Judas de côté. Mais c'est un partage en mémoire de lui. Et c'est dans ce cas-là que nous devenons meilleurs. Et donc, dans tous les autres cas, y compris l'ivresse pour les Corinthiens, là, on devient pire. Devenons meilleurs. Prenons le pain et le vin et annonçons sa victoire. Annonçons-la aux frères, à la sœur qui est à côté de nous pour commencer. Et à la question, est-ce que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les fameux inconvertis, peuvent-ils venir au culte? C'est un lieu public. De toute façon, la réglementation française nous donne la réponse dès le départ. C'est un lieu ouvert au public. C'est la condition pour laquelle il y a certains avantages, même d'ordre fiscaux, puisqu'il n'y a pas d'impôt foncier, bref. Mais si ce n'est pas un lieu ouvert au public, même les avantages sautent. Donc, du coup, puisque c'est un lieu ouvert au public, laissez-le lire. Le corollaire, c'est « et s'il y a un don spirituel ?» Mais vous tournez les pages, et ce n'est pas le moment ce matin, mais quand un don spirituel est apporté comme il convient, il ne suscite qu'une seule question. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelle langue parle-t-elle cette personne? Et à partir de là, vous avez la voix royale pour expliquer le souffle de l'Esprit de Dieu manifesté régulièrement dans l'histoire, puisque dans ce qu'on a partagé cette semaine, il y avait aussi un regard historique depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, au travers de l'histoire de l'Église, eh bien, c'est la voie royale pour expliquer tout ce que le Seigneur a fait, et commençant par le Seigneur, et par le prophète Ésaïe, Philippe a parlé à l'Éthiopien de tout ce qui concernait Jésus, et à la fin il a été baptisé d'eau. Je ne doute pas qu'il ait été aussi, plus tard, si ce n'est au même moment, baptisé de l'Esprit. Partageons en mémoire de lui. Et Paul dira aux Philippiens, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Donc vous voyez que cette notion de partage, elle est partout. Elle est partout. Et la parole de Dieu est vivante et efficace pour partager. Âme et esprit. Jointure et moelle. Âme et esprit. Ça veut dire que ce que nous avons partagé ce matin est du domaine de l'esprit. Et ça doit être séparé, partagé de ce que nous ressentons. Parce que ce que nous ressentons n'est peut-être pas toujours inspiré. Parce que ça peut être tout simplement humain. Alors, séparons un petit peu les choses et laissons l'esprit de Dieu faire son œuvre. Et cette coupe, dira Jésus, vous la distribuez entre vous. Permettez-moi de le dire avec un autre verbe qui est tout aussi juste dans le sens, partagez-la entre vous. Dieu a tout voulu partager, toujours avec nous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors ce matin, on va se recueillir, on va lui dire, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que tu as tout voulu partager avec nous de la vie qui est en toi, des pensées, des paroles qui sont les tiennes et des sentiments qui sont les tiens. Tu as voulu les partager avec nous à tel point qu'ils peuvent être en nous. Tu as voulu partager avec nous l'éternité. Tu as tout partagé avec nous. Alors je veux prendre ce matin ma part dans ce partage et te dire merci. Alléluia.